Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Au sommaire, à Limoux, les 15 et 16 novembre prochains, se tiendra un colloque sur les enfants intellectuellement précoces. Le but de ce congrès, permettre aux parents et enseignants de pouvoir mieux comprendre et accompagner ces jeunes. Reportage de Nathalie Dessos, RCF Pays d'Aude. Suite au rapport annuel du Secours catholique, on constate pour l'année 2013 une hausse de la pauvreté. En Languedoc-Roussillon, ce n'est pas moins de 20% de la population qui serait touchée. Emmanuel Fagnou du Secours catholique de l'Hérault répondra aux questions de Romain Bercher de RCF Hérault. Différents acteurs de l'emploi et du tourisme parcourent le Languedoc-Roussillon pour rencontrer les saisonniers à l'issue des saisons estivales. Ludovic Thérol de 48FM Mende est allé à leur rencontre. Fin de mandat pour André Vézinet. À la surprise générale, le président PS du Conseil général de l'Hérault a annoncé lundi matin en conférence de presse qu'il arrêterait ses fonctions à la tête du département héraultais en mars prochain. Un sujet proposé par Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault. Et nous terminerons cette émission avec Radio Aviva qui a choisi cette semaine de rendre hommage à l'homme aux mains d'argent, le guitariste et chanteur Manitas de Plata, décédé ce mercredi.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
En France, plus de 400 000 enfants sont diagnostiqués intellectuellement précoces. Pourtant, on constate que le sujet échappe parfois aux parents, enseignants et même professionnels de santé. Pour tenter de donner des clés de compréhension à ces derniers, un congrès sera proposé les 15 et 16 novembre prochains à Limoux. Reportage Nathalie Dessos, RCF Pays d'Aude.
Les enfants intellectuellement précoces, qu'est-ce que ça signifie? Un congrès consacré à cette thématique sur 2 jours à Limoux, les 15 et 16 novembre prochains, organisé à la cave Sieur d'Arc, route de Carcassonne. Pour nous en parler tout de suite, voici Alexandrine Léon. Ce congrès s'adresse à qui? Pourquoi?
Donc aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 enfants précoces en France et une méconnaissance du sujet de la part des enseignants, des professionnels de santé et des familles en souffrance. Donc l'idée, en fait, c'était d'informer, mais de manière quand même très universitaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même de très belles prestations qui vont être faites de haut vol. Et donc c'est vrai que c'est pour des parents qui sont intéressés, qui vont venir avec le papier, bloc-notes, écrire et essayer d'apprendre et de comprendre comment accompagner en fait leurs enfants au quotidien. Puisqu'en fait, ces enfants, bien qu'ils aient un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne, ont des soucis d'adaptation par rapport au programme, à la façon d'enseigner, et donc se retrouvent fréquemment en échec scolaire.
Un enfant intellectuellement précoce, très concrètement, qu'est-ce que ça peut donner?
Puis on ne connaît pas sa leçon, et puis l'enfant, bah, si on lui dit comme ça, comme un perroquet, allez, récite-moi, c'est quoi le point A, c'est quoi l'intro, c'est quoi... L'enfant, il ne peut pas s'il est, par exemple, visuel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de prendre, en fait, au milieu de sa page, d'écrire le thème du sujet. Ensuite, il fait des petits traits avec des bulles et il met les éléments essentiels, en fait, de sa leçon. Et il sait que, par exemple, il a 5 bulles à devoir se rappeler. Et donc, bah, quand il arrive le jour de son contrôle, s'il est visuel, il va ressortir la photo qu'il a dans sa tête et il va se dire, voilà, ah oui, je sais, j'ai 5 bulles, la première bulle, c'était ça, et il va pouvoir restituer ses connaissances. Parce que c'est ça la difficulté d'un enfant précoce, c'est pas tant la compréhension que la mémorisation, qui sont ses points forts, mais c'est la restitution de connaissances.
Alexandrine Léon qui nous invite les 15 et 16 novembre prochains à Limoux pour justement découvrir ces techniques de simples à complexes pour accompagner les enfants intellectuellement précoces. Congrès Cave Sieur d'Arc à Limoux les 15 et 16. Alexandrine Léon organise ce congrès avec son association Jacadie.
Jacadie en fait est née à la base pour être une ludothèque parce qu'on n'avait pas de ludothèque en fait sur le territoire limouxin. Avec donc Natacha Gélic, qui est présidente, et moi-même, on était quand même très passionnés de soutien à la parentalité et d'accompagnement à la scolarité. Donc c'est vrai que ce colloque en fait, va se répéter d'année en année, certainement sur la même période, au mois de novembre. On a choisi le thème au démarrage de la précocité intellectuelle, mais après l'année prochaine, on aura un thème sur l'épanouissement des familles et des parents, avec de très beaux intervenants également. Et puis les autres années, on souhaiterait en fait laisser un questionnaire à disposition des parents et des familles pour qu'ils nous sollicitent.
Sur la question des enfants intellectuellement précoces, des grands ponts à votre service les 15 et 16 novembre prochains à Limoux, cave Sieur d'Arc, pour ce congrès EIP. N'hésitez pas à surfer sur le site EIP, à retrouver sur un moteur de recherche pour avoir les informations. Il faut compter pour une famille sur les deux jours un budget de 100 euros.
Comme chaque année, le Secours catholique constate une hausse de la pauvreté en France. C'est ce qui ressort du rapport annuel pour l'année 2013. 20% de la population est touchée par cette réalité en Languedoc-Roussillon. Principale tranche de la population concernée, les femmes seules avec enfants et les seniors. Emmanuel Fagnou fait partie du Secours catholique dans l'Hérault. Il répond aux questions de Romain Bercher de RCF Hérault.
C'est énorme, malheureusement, c'est un constat qu'on fait depuis plus de 5 ans maintenant, une augmentation autour de 5 à 6% par an de personnes qui viennent nous voir, donc c'est à la fois pas facile à vivre pour nous et nos bénévoles, mais aussi surtout pour les personnes en précarité, parce que ça montre vraiment une accentuation de la pauvreté en France.
Qu'est-ce qu'on fait, Emmanuel Fagnou, avec 17 euros par jour, 18, 17 euros?
On survit, en fait, on essaie de se débrouiller, de boucler les fins de mois, et souvent les personnes d'ailleurs qui viennent nous voir au Secours catholique, c'est des gens qui, à un moment ou à un autre, n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Donc ils ont des soucis de paiement, d'électricité, du loyer, enfin en gros toutes les dépenses contraintes, ils sont coincés.
C'est de la survie, vraiment.
C'est vraiment la survie, effectivement. Ah, c'est énorme, puisqu'on est vraiment dans un des régions records de France, malheureusement, sur ce sujet. La moyenne française est autour de 14 et quelques%, 14,6%. Et nous, on atteint pratiquement les 20%. Donc, c'est vraiment très, très important par rapport au reste de la France.
Est-ce qu'on peut dresser un petit peu le portrait robot des personnes que vous accueillez au Secours catholique?
Alors, il y a tellement de diversité, effectivement, c'est difficile de donner un prototype systématique. C'est vrai que la majorité, c'est souvent des femmes qui élèvent des enfants. Ça, c'est vraiment une part importante des personnes qui viennent nous voir. Donc, c'est des femmes qui ont très peu de ressources, qui élèvent seules des enfants et qui sont vraiment très vite dans une situation d'une impasse financière importante. Mais bon, pas uniquement, on a aussi des couples qui ont des enfants. On a beaucoup de gens, ça c'est un constat qu'on a fait depuis quelques années, des gens qui travaillent en fait, qui ont des salaires, mais qui n'y arrivent pas non plus parce qu'ils ont des salaires liés à des contrats précaires, à temps très partiel ou très morcelé, ce qui fait que c'est des revenus finalement très faibles.
Alors il y a aussi une nouvelle donnée peut-être qui rentre en compte cette année, c'est la précarité énergétique.
Alors déjà le premier critère c'est la pauvreté tout simplement monétaire des personnes, c'est-à-dire que justement quand on a du mal à boucler les fins de mois, on essaie de payer ce qui nous paraît essentiel, le loyer et en dernier recours l'électricité, le gaz, etc. Donc c'est un petit peu la variable d'ajustement qui est pourtant une dépense contrainte. L'autre élément c'est l'augmentation du prix de l'énergie. Puisque quand on regarde l'indice de l'inflation, les coûts qui ont fortement augmenté ces dernières années, c'est l'EDF, enfin l'électricité, l'essence, le gaz, enfin voilà, donc tout ce qu'on a pu voir au quotidien. Donc ça, c'est vrai que ça a un impact très très fort sur les gens à faible revenu, hein, une augmentation de 4, 5, 6% du coût de ces paramètres. Quand on a des faibles revenus, c'est très important, quoi. Et puis le dernier point aussi, c'est la triple peine des personnes en difficulté, c'est la faible isolation des bâtiments, puisque souvent, c'est des personnes qui habitent dans des logements pas forcément très grande qualité, donc ils sont très mal isolés, donc la facture d'énergie est plus importante que la moyenne.
À vous entendre, on a l'impression que c'est un petit peu un cercle vicieux. Une fois qu'on rentre dans une des branches, ne serait-ce que le chômage ou problème de salaire, tout est lié dans la pauvreté.
Alors ça, c'est tout à fait exact, oui, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est-à-dire que nous, on est convaincus au Secours catholique que la pauvreté, enfin, ou une difficulté, c'est pas lié à un seul paramètre. C'est souvent la combinaison de plusieurs facteurs, l'isolement aussi social, hein, des personnes en difficulté. Et c'est ce sur quoi nous, on veut travailler au Secours catholique, c'est d'accompagner la personne dans la globalité. Donc l'accompagner à la fois dans la durée, donc il faut du temps pour comprendre la situation, parce que quelqu'un qui vient nous voir, effectivement, sur une facture EDF qui n'arrive pas à payer, en réalité, on se rend bien compte que le problème, il est beaucoup plus enraciné sur une situation de précarité monétaire. Les gens ont des très faibles ressources, souvent liées à l'isolement social, c'est-à-dire qu'ils ont parfois coupé les ponts avec la famille, qui est quand même un élément de solidarité. Et voilà, donc tout ça combiné fait que les personnes se retrouvent dans une impasse complète.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La semaine dernière à Mende, différents acteurs du tourisme et de l'emploi étaient réunis pour les 7e rencontres régionales liées aux actions post-saison touristique. Pour cette opération, renouvelée dans chaque département du Languedoc, Pôle emploi était en lien avec 22 partenaires, comme les services de l'État, de la région, la mission locale, la maison de l'emploi ou encore les organisations patronales et de salariés. L'objectif, après cette saison estivale, s'adresser aux saisonniers en fin de contrat et qui comptent s'inscrire durablement dans le secteur du tourisme pour leur proposer de développer leurs compétences professionnelles, se professionnaliser ou encore élargir leurs compétences. Car ce qui était encore, il y a peu, des petits jobs d'été demande aujourd'hui plus de professionnalisation. Écoutez Dominique Valero, responsable du service des relations institutionnelles et du développement économique à la direction de Pôle emploi du Languedoc-Roussillon, au micro de Ludovic Thérol de 48 FM.
Il y a deux choses qu'il faut signaler sur ce sujet. C'est les retours que nous font les professionnels du secteur qui nous disent qualifier, professionnaliser nos futurs collaborateurs. On a besoin de personnes de plus en plus qualifiées, compétentes, etc. Donc ça, c'est les retours que nous font les professionnels. Et en même temps, en matière de politique publique de développement touristique, en région Languedoc-Roussillon, il y a une démarche de montée en gamme de l'offre touristique, de diversification de l'offre touristique, de renforcement de la destination Languedoc-Roussillon pour attirer un peu plus de touristes, puisque c'est quand même un secteur d'activité économique très important, voire très stratégique pour la région Languedoc-Roussillon. Donc la démarche visant à professionnaliser les salariés, même s'ils sont saisonniers dans le tourisme, accompagne également cette démarche de montée en gamme, de diversification de l'offre touristique. Il y a une cohérence entre ce que nous faisons dans le champ de l'emploi et ce qui se fait également, donc c'est en phase, dans le champ du développement touristique proprement dit.
Et en haute saison, en Languedoc-Roussillon, le secteur du tourisme emploie 55 000 personnes, dont 22 000 sont en emploi saisonnier. Lundi dernier, André Vézinet, président PS du Conseil Général de l'Hérault depuis 1998, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il ne se représenterait pas à la tête du département héraultais en mars prochain. Reportage d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Il a pris tout le monde de court, ses collègues, la population et les médias. André Vézinet jette l'éponge. Le président socialiste du Conseil Général de l'Hérault ne se représentera pas à la présidence du département en mars prochain, à la tête de cette institution depuis 1998. L'une des principales raisons de son départ annoncé, la lente agonie des conseils généraux à qui l'État ne donne plus les moyens d'exercer ses compétences obligatoires telles le social, l'aménagement des routes, l'entretien des collèges et ce dans de bonnes conditions. André Vézinet.
Vous rendez compte qu'on vient de nous piquer 1,5 milliard pendant 3 ans, 5 milliards au total aux collectivités territoriales, et que là, on s'apprête à nous faire la même chose, mais avec 12 milliards cette fois. Ce qui veut dire 4 milliards par an pendant les 3 ans qui viennent, 2015, 2016 et 2017. Ça veut dire que nous serons exsangues et que nous ne pourrons plus respecter la loi et la constitution, qui est l'équilibre, le juste équilibre entre la dépense, la charge et le produit, la recette.
André Vézinet, 40 ans de vie politique, depuis 18 ans à la tête du Conseil Général de l'Hérault et aujourd'hui âgé de 75 ans, il balaie d'un revers de main l'idée qu'il parte à cause de son ancienneté.
Je ne me suis jamais senti aussi jeune et j'ai une forme d'enfer. Donc s'il avait fallu continuer, j'aurais continué sans la moindre hésitation, parce que je m'en sentais tout à fait la force et la vigueur.
Enfin, les charges les plus virulentes d'André Vézinet sont destinées aux plus hautes personnalités de l'État, issues de la même famille politique, le PS. La réforme territoriale qui annonce la mort des départements pour André Vézinet.
Eh bien, on a tué les départements. Et ça, c'est la volonté farouche de M. Hollande. Ancien président du Conseil Général, sans doute se venge-t-il d'avoir été un aussi mauvais président du Conseil Général qu'il l'a été sur la Corrèze. Hein. Monsieur Valls, qui ne connaît de la ruralité que rien du tout. Hein. Je pense même qu'il l'a apprise en allant voir des vaches en Savoie la semaine dernière. Jusque-là, il ne savait pas que la ruralité, ça existait. Donc ils ont beau être socialistes et de la même famille politique, s'ils veulent me faire exclure, ils m'excluent. Mais ce sont des gens qui massacrent la démocratie de proximité, qui massacrent le monde rural. Et ça, je ne tolère pas.
André Vézinet, le président socialiste du Conseil Général de l'Hérault, qui continuera sûrement à faire de la politique s'il est sollicité, indiquait-il également. Il passera officiellement la main après les élections départementales de mars 2015.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le guitariste gitan Manitas de Plata, de son vrai nom Ricardo Baliardo, est décédé dans la nuit du 5 au 6 novembre. Manitas de Plata, qui signifie littéralement « petite main d'argent », était né le 7 août 1921 à Sète et était l'icône de la guitare gitane à travers le monde. Suite à sa disparition, Claire Moreau de Radio Aviva a contacté son neveu, Nino Baliardo. C'est lui que nous écoutons tout de suite nous parler de son nom.
On perd quelqu'un d'exceptionnel chez la communauté gitane, surtout chez la famille Baliardo, surtout. Manitas, bon, ça restera le symbole des gitans. Hein. Le maestro de chez nous, de Baliardo, de la guitare, c'est lui qui a mené le flamenco avec mon père Hippolyte Baliardo. Et toute la famille de Baliardo, quoi, c'est lui qui a fait connaître le flamenco un peu partout dans le monde entier. Et on perd une grosse, vraiment un grand guitariste. Voilà, c'est toute la communauté gitane qui représentait lui. C'est vraiment une très très grande perte chez nous. Vous savez, moi je suis un chanteur, je vais pas dire un des plus grands chanteurs de France ou de la famille de Baliardo. Vous savez, il y en a beaucoup de chanteurs chez nous et des guitaristes. Donc, là, c'est déjà, moi, je vais faire mon maximum pour parler de mon oncle, que j'adorais, bien sûr. Mais, vous savez, tout le monde chante chez nous, il joue de la guitare. C'est la famille Baliardo, Reyes, c'est la même famille, vous savez. C'est de nous qu'a parti toute la musique gitane, gypsy, rumba, Hippolyte Baliardo, le roi de la rumba, Manita Zepata, la guitare, Gypsy King, que ça se fait entre les fils Baliardo et les fils d'Hippolyte Baliardo, et les fils de José Reyes, que c'est la même famille, vous voyez. Donc, c'est un patrimoine de Baliardo, il est parti chez nous, voilà, il est parti. Il sera dans nos cœurs toute notre vie, et le symbole gitan, on n'en dit qu'à représenter le symbole digital. Ça, c'est sûr. Le symbole gitan, nous a l'échao. J'espère qu'il jouera de la guitare pour au ciel, pour Dieu, quoi. Avec Paco de Lucía, Camarón, mon père Hippolyte Baliardo, José Reyes, vous voyez, tous les plus grands sont partis de chez nous. Donc, mais nous, on est là quand même pour faire reprendre la flamme de tout ça.
Nino Baliardo répondait aux questions de Claire Moreau de Radio Aviva. Et quel meilleur hommage peut-on trouver pour un musicien que d'écouter encore sa musique? Tout de suite, un extrait de Por el Camino de Ronda de Manitas de Plata. C'était un sujet de Claire Moreau et Gilles Geoffrey pour Radio Aviva. Voilà, c'est tout pour ce carnet de région, un magazine réalisé par les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. La semaine prochaine, vous retrouverez pour carnet de région Yves Defago de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.